Homer a œuvré sans rature, nous donnant à voir l'entier pays des hommes et des dieux. René Char. Mille ans d'histoire. C'est l'histoire d'une ville assiégée pendant 10 ans pour les beaux yeux d'une reine et l'aventure d'un homme qui fit un très long voyage avant de retrouver sa femme. Une histoire de guerre et d'amour dont tout le monde connaît les héros. Ils s'appellent Achille, Ulysse, Patrocle, Hélène, Hector, Paris, Agamemnon, Télémaque ou Pénélope. Les personnages de l'œuvre la plus ancienne de la littérature occidentale, les aventures de l'Iliade et de l'Odyssée, écrites par un poète aveugle dont on ne sait presque rien, mais qui depuis 3000 ans a inspiré des générations d'écrivains, de philosophes ou quelques grands conquérants qui avaient rêvé du destin des héros d'Homère, Napoléon, Jules César ou le jeune Alexandre quand Aristote lui racontait les exploits d'Achille pendant la guerre de Troie.
Les coursiers du bouillant Achille ont de leur fer d'argent piétiné pêle-mêle boucliers et cadavres. Le sang pourpre giclé et le timon fut éclaboussé, car les gouttes sanglantes soulevées par les chevaux et les roues du char jaillissaient de toutes parts. Mais le fils de Pélée hâtait sa course vers la gloire, laissant se cailler le sang sur ses mains invincibles.
Te rappelles-tu Achille ?
C'est mon préféré.
Pourquoi ?
Parce qu'il aimait Patrocle et qu'il a vengé sa mort.
Et quel fut son destin ?
De mourir jeune et plein de gloire.
Avait-il un autre choix ?
Oui, il aurait pu choisir une longue vie, mais dépourvue de gloire.
Tu rêves de gloire, Alexandre. Mais il n'est pas de gloire sans souffrance.
Alexandre Farnoux, bonjour.
Bonjour.
Alors, rares sont les œuvres littéraires qui ont aussi profondément marqué l'histoire que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. L'histoire politique, car elles ont servi de mythe fondateur à la Grèce et inspiré, dit-on, les conquêtes d'Alexandre le Grand, de Jules César ou de Napoléon, mais aussi l'histoire de la littérature occidentale. Vous le rappelez dans un livre sur Homère, publié chez Gallimard Découverte, un livre qui parle d'ailleurs plus de son œuvre que de sa vie, car on ne sait presque rien de lui, au point d'ailleurs qu'on s'est même demandé s'il avait vraiment existé.
Oui, effectivement, c'est un auteur dont le nom est évidemment très, très connu à travers les siècles et à travers le monde. Mais paradoxalement, c'est un auteur sur lequel on possède un nombre d'informations extrêmement réduite. Dans l'Antiquité, c'était déjà une énigme et nous avons hérité de cette énigme. Les auteurs anciens, pour essayer d'en savoir un peu plus, avaient composé des biographies tardives. Bien après lui, à l'époque impériale et au début de l'époque byzantine. On en possède une petite dizaine qui rassemble toutes les anecdotes possibles et imaginables sur cet auteur, toutes probablement inventées. On possède très peu d'informations sûres. Le seul qui nous donne une indication, c'est Hérodote, dans les histoires, où il nous dit que Homère a écrit 4 siècles avant lui. Et c'est la seule indication qu'on possède, nous donnant quelques informations.
Ce qu'il ferait vivre donc à peu près au
8e, 9e
siècle, avant notre ère, il faut le rappeler. Oui. Alors, ce que dit Hérodote, c'est que Homère serait né à Smyrne, dans l'actuelle Turquie. En réalité, il y a beaucoup de villes qui revendiquent la naissance d'Homère.
Oui, un auteur aussi populaire est évidemment réclamé par de nombreuses cités qui voulaient pouvoir se targuer de l'honneur de lui avoir donné le jour ou même de l'avoir enterré. Et donc, une dizaine de cités à peu près dans l'Antiquité se réclamaient comme le berceau du poète et un nombre comparable de cités comme possédant la tombe d'Homère.
De Mélésigénès, car vous dites que c'est son nom d'origine et qu'on sait plus tard, quand il est devenu aveugle, qu'il s'est appelé Homère, parce qu'Homère en éolien, dites-vous, ça veut dire aveugle.
Oui, alors on s'est beaucoup interrogé sur son nom. Homère est un nom en grec un peu curieux et on a cherché à l'expliquer par l'étymologie, soit l'aveugle, soit l'otage, et en faisant de ce pseudonyme, en quelque sorte, un indice sur un épisode de sa vie, soit il est devenu aveugle dans le courant de son existence en raison de la misère, la vie misérable qu'il a menée, soit il a été lui-même pris en otage dans des conflits entre d'autres cités, et ça renverrait un élément de sa biographie. Donc c'est un bon indice de cette façon qu'on a eu de faire feu de tout bois pour pouvoir dire quelque chose sur cet auteur qui est le grand absent de cette œuvre.
Un aveugle dont les Grecs pensaient d'ailleurs toujours que la cécité permettait de leur donner le don de voir ce que les autres ne voient pas. Alors il était poète, hein. C'est un poète, c'est l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des vers, 26 000 vers, et des vers chantés.
Oui, ça a été montré par des études à la fin du 19e et surtout dans le courant du 20e siècle. C'est de la poésie qui est faite pour être récitée, pour être chantée. C'est de la poésie orale au départ, qui ne suppose pas d'ailleurs l'usage de l'écriture et qui même a tous les moyens de s'en dispenser. Et donc c'est d'abord une œuvre de récitation. Et d'ailleurs, la matière homérique a fourni la matière de concours de poésie orale lors de fêtes organisées dans les cités, en particulier à Athènes, lors des Panathénées.
Ça veut dire que ça s'est transmis de manière orale au début. Enfin, ils chantaient ça accompagnés, enfin les poètes, les aèdes, comme on disait, chantaient ça accompagnés d'une cithare. Mais et pourtant, c'est exactement, si Homère a existé et a écrit l'Iliade et l'Odyssée, c'est exactement contemporain de la naissance de l'écriture.
Oui, alors il y a probablement deux phases dans la matière homérique telle que nous la connaissons. Une première phase qui est un état, pour reprendre l'expression de Cadaré, d'Ismaël Cadaré, un état gazeux, une poésie orale qui ne suppose pas l'existence de l'écriture et qui est récitée par des aèdes qui connaissent tous ces vers et toutes ces comparaisons et qui composent à chaque fois une performance orale. Et à un moment donné, constitue aux alentours du 8e siècle, effectivement au moment de la naissance de l'écriture, un passage, une précipitation à l'écriture qui fait qu'on passe à ce moment-là une tradition écrite avec une transmission manuscrite, mais qui se double toujours d'une transmission orale. Hein, c'est ce qui explique le texte, est toujours bourré de variantes dont nous avons hérité.
Texte donc de deux œuvres, hein, archi-célèbres, l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade qui raconte une partie de la guerre de Troie qui, selon la légende, avait été provoquée par l'enlèvement de la reine de Sparte par un Troyen et la vengeance des Grecs qui ont fait pendant 10 ans le siège de la ville de Troie protégée par de grandes murailles.
Jamais personne n'a pu vaincre les Troyens. Certains les prétendent invincibles.
Le vieux roi Priam se croit intouchable derrière ses hautes murailles. Il est persuadé que le dieu du soleil va le protéger. Mais les dieux protègent uniquement les forts.
Hector commande la meilleure armée de tout l'Est.
Je les attaquerai avec les plus grandes forces que le monde ait jamais vues. Je veux tous les rois de Grèce avec leur armée.
Nous avons besoin d'Achille et de ses Myrmidons.
Achille.
Nous allons faire la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Il nous faut le plus grand des guerriers.
Cette guerre restera gravée dans l'histoire, ainsi que le nom des héros qui auront combattu.
Alors cette guerre est en effet restée gravée dans l'histoire, même si on ne sait pas exactement ni quand, ni où, ni pourquoi, ni comment elle s'est produite, Alexandre Farnoux.
Oui, c'est une des grandes questions de l'histoire de la Grèce ancienne, la réalité de cette guerre qui oppose un certain nombre de Grecs à des habitants de la ville de Troie, dont on ignore tout de la nationalité exacte.
Oui, vous hésitez, parce qu'on ne sait pas non plus qui allait opposer. D'ailleurs, Homère parle des Achéens, il ne parle pas des Grecs, hein, ceux qui attaquent Troie,
exactement.
Comme si en face, il y avait aussi d'autres Grecs, oui, comme si les Troyens étaient des Grecs.
La réalité troyenne, effectivement, est extrêmement curieuse à cerner, puisqu'ils parlent vraisemblablement la même langue, ils ont des coutumes très voisines, ils ont des dieux très voisins aussi, donc ce n'est pas facile à démêler à partir du texte. On a cherché à pouvoir confronter cette source homérique à d'autres sources d'informations, soit fournies par l'archéologie, soit fournies par les textes, en particulier les textes hittites. Aujourd'hui, l'hypothèse, c'est que c'est un événement qui oppose, d'une part, un ensemble d'Achéens, qui sont les ancêtres des Grecs, qui dominent le continent grec et une partie de la Méditerranée orientale, et puis des populations situées en Asie mineure, soit liés aux Hittites, soit dans la sphère influence des Hittites, et qui seraient rentrés en conflit pour des questions d'intérêt, de contrôle, en particulier de la route des Détroits, qui se trouve juste au nord de Troie, les Dardanelles.
Ah bon, pas pour Hélène.
Disons qu'Hélène a peut-être été le prétexte avoué et avouable, mais il y en avait beaucoup d'autres qui étaient des questions économiques.
Alors, et puis surtout, on a cherché le site, le lieu de la ville de Troie. Et on l'a trouvé au 19e siècle, c'est un Allemand qui s'appelait Heinrich Schliemann qui l'a découverte.
Oui, alors Heinrich Schliemann a découvert ce site d'Isarlik, hein, qui est le site aujourd'hui dans lequel on identifie le site de Troie.
Et à la actuelle suite, Turquie.
L'actuelle Turquie, oui, qui est à la suite de recherches qui avaient déjà été faites par des voyageurs et des pèlerins à l'époque médiévale. Hein, c'est toute une tradition qui situe en Troade et qui a recherché en différents points les ruines de la ville de Troie. Homère avait prévenu d'emblée qu'il ne resterait rien de Troie et du rempart des Grecs, hein, donc on savait que ça allait être difficile difficile. Et Schliemann a fait le pari que les ruines pouvaient se trouver pour toutes sortes de raisons sur le tel de d'Issarlik. Et en quelques campagnes de fouilles menées à grand renfort d'ouvriers et de budgets considérables, il a dégagé 9 villes superposées dans lesquelles il a identifié l'un des niveaux pouvant correspondre.
Oui, parce qu'entre-temps, on avait construit des villes les unes sur les autres. Effectivement, il a découvert la ville où s'est déroulée, où se serait déroulée cette bataille environ au 12e, 13e siècle avant notre ère, c'est-à-dire 500 ans avant Homère. Homère, qui, on le croit toujours, a raconté la bataille de Troie, la guerre de Troie qui a duré 10 ans. En réalité, vous le rappelez, Alexandre Farnoux, il n'a raconté que 51 jours de cette bataille sur les 10 ans qu'elle a duré.
Oui, on oublie souvent que l'Iliade ne porte que sur une toute petite partie, un épisode minuscule, c'est la colère d'Achille. C'est d'ailleurs le premier vers, hein, chante Muse la colère d'Achille. Et ça n'est que cet épisode-là. Tout ce qui précède et tout ce qui va suivre, la chute même de Troie, en fait, se trouve raconté ailleurs. La chute de Troie est racontée dans l'Odyssée, mais sous une forme extrêmement brève, en résumé. Et c'est développé, en fait, dans d'autres poèmes de la matière épique grecque.
La colère d'Achille, parce qu'on lui a enlevé une Troïenne qu'il avait capturée.
Oui, qu'il avait capturée et que Agamemnon lui demande de rétrocéder parce que lui-même, on lui a retiré la fille du prêtre d'Apollon. Et par conséquent, Agamemnon, qui est le roi des rois, ne peut pas se trouver dépossédé de cette manière-là.
Alors, on trouve tous les héros, hein, justement, on les a cités. Agamemnon, qui est le chef de l'expédition des Achéens. Il y a Achille, son ami Patrocle. Il y a, bien sûr, de l'autre côté, il y a le roi de Troie, Priam. Il y a ses fils, il y a Hector. Enfin bref, il y a Hélène aussi qui est là, qui est la pomme de discorde entre les deux. Il y a donc tous les héros, il y a tous les dieux aussi. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le texte d'Homère, c'est que les dieux y participent à la bataille. Ils ont chacun leur camp, un peu comme des supporters d'équipe de foot, Alexandre Farnoux.
Oui, tout à fait. L'Iliade constitue, et c'est Hérodote qui le dit, hein, Hérodote signale que Homère a été un des auteurs qui a mis en ordre le panthéon olympien en répartissant les charges et les devoirs de chacun des dieux les uns par rapport aux autres et en constituant la famille olympienne. Et donc cet aspect religieux de l'œuvre d'Homère a été très reconnu dans l'Antiquité puisque les petits Grecs apprenaient la mythologie et la théologie dans l'Iliade. Et de même, dans l'Iliade, les petits Grecs apprenaient aussi le bottin mondain. On avait les grands ancêtres et chaque petit Grec essayait de se situer par rapport à ces grandes généalogies en espérant appartenir à la descendance d'Achille, bien sûr.
Alors il y avait Apollon et Aphrodite qui soutenaient les Troyens, Athéna et Poséidon, les Achéens, des dieux bagarreurs. C'est très violent d'ailleurs, cette Iliade.
Oui, on l'oublie, mais la description des batailles dans Homère, c'est extrêmement précis. On a montré d'ailleurs, des médecins ont montré que toutes les blessures faites dans la guerre sont anatomiquement possibles. Et les bruits, Homère parle du bruit des crânes écrasés, des membres qui sont démis. C'est extrêmement concret, du flot du sang. C'est une poésie très réaliste.
Jusqu'à la dernière des batailles, celle que justement l'Iliade ne raconte pas, parce que l'Iliade s'arrête avant la chute de Troie, qui a été remportée par une ruse d'Ulysse, le fameux cheval de Troie.
Depuis plus de 10 longues années, les Grecs assiégeaient Troie. Lorsqu'un jour les Grecs, on ne sait pourquoi, se lassèrent et abandonnèrent un soir leur retranchement. Et sur le camp déserté, il ne resta plus qu'un immense cheval de bois. Oh, Troyens, pourquoi l'avoir fait entrer dans vos murs? Oh, Troyens, ne saviez-vous donc pas que dans ce ventre sans entrailles, Ulysse, l'astucieux Ulysse, préparait votre défaite? Les dieux avaient abandonné Troie à son destin. Dans les murs de la citadelle retentirent les cris du massacre. Les soldats de Troie, encore ivres de leur victoire, furent sans défense. Et grand fut le carnage.
Et c'était donc la chute de Troie qu'on ne trouve pas dans l'Iliade, mais qu'on trouve dans l'Odyssée, puisque c'est le récit que Ulysse, le héros de l'Odyssée, qui n'est qu'un figurant dans l'Iliade et qui devient le personnage principal de l'Odyssée, eh bien, raconte justement cette chute de Troie. C'est le début justement de l'Odyssée, de ce voyage interminable de Ulysse vers Ithaque, vers sa femme Pénélope qui l'attend. Alors, un récit très différent en réalité. D'abord, vous le rappelez aussi, de même que dans la guerre de Troie, l'Iliade ne raconte que quelques jours, là, dans l'Odyssée, c'est les 41 derniers jours de l'Odyssée d'Ulysse, qui a pourtant duré également une dizaine d'années, mais alors un récit très différent. On a souvent dit que si l'Iliade avait été le poème de la guerre, de la violence, l'Odyssée, c'est plutôt celui de l'amour, de la fidélité. C'est très différent, Alexandre Arnoux, les deux textes, à tel point qu'on s'est demandé si d'ailleurs ils avaient été écrits par le même homme. Là encore, on se pose des questions.
Oui, alors les différences ont été utilisées évidemment pour, en faveur de l'hypothèse qu'il y avait deux auteurs distincts, un pour l'Iliade, un pour l'Odyssée, ou alors utilisé en disant que c'était une œuvre de jeunesse pour l'Iliade et une œuvre de vieillesse pour l'Odyssée. Ce qui est sûr, c'est que les deux œuvres sont très différentes. L'Iliade est une aventure collective, l'Odyssée est une aventure individuelle. L'Iliade est tournée vers l'Est, l'Odyssée est tournée vers l'Ouest. Enfin, on peut, comme ça, à l'infini, montrer à quel point les deux œuvres sont très, très différentes dans leur esprit. La composition même de l'Odyssée est très distincte. Il y a une unité dans l'Iliade qui est très sensible. Dans l'Odyssée, il y a au contraire il y a Ulysse, mais il y a aussi son fils Télémaque. Il y a tout ce qui se passe chez Nestor à Pylos, mais il y a tout ce qui se passe à Ithaque. Et c'est une structure de narrative qui est très différente dans l'Odyssée. Et il y a là des éléments qui ont été utilisés, oui, en faveur de la multiplicité des auteurs.
Et puis surtout, il y a beaucoup plus de femmes. Elles sont, bon, c'est Ulysse le personnage central, mais enfin, les femmes sont omniprésentes dans ce texte.
Oui, bien sûr, on pense bien sûr à Circé, à Pénélope d'abord, mais à Circé, à Nausicaa, qui sont toutes ces figures, mais aussi...
Oui, elles ne sont pas toujours un bourreau. Parfois, non, c'est des femmes fatales,
en
l'occurrence.
C'est en partie des femmes fatales, c'est ce qui explique qu'Ulysse met tant de temps à rentrer chez lui, c'est qu'il a été retenu en route.
Oui.
Mais aussi des femmes qui l'aident énormément. Quelqu'un comme Athéna, même si c'est une déesse, elle n'en est pas moins une femme, et elle le soutient, et c'est elle qui permet finalement à Ulysse de regagner sa maison. Et c'est un aspect important pour les Grecs que ce rapport particulier d'un homme à un dieu, à une déesse. Il y a là l'ébauche de quelque chose qui ensuite va avoir un succès considérable, que ce rapport particulier et personnel d'un homme avec un dieu.
Il n'y a pas d'hommes. Enfin, si, il y a des hommes, bien sûr. Bon, il y a les compagnons d'Ulysse dans son voyage. Il y a Ulysse. Il y a aussi Cyclope. Enfin, il y a tous ces personnages tout à fait fantastiques qu'on ne retrouve pas, d'ailleurs, qui n'existaient pas dans l'Iliade. C'est pour ça que c'est une grosse différence. Et les héros, en fait, de l'Iliade, ils sont morts. C'est pour ça qu'on ne les voit plus. Et dans l'Odyssée, eh bien, Ulysse ne les retrouve qu'aux enfers. On écoute cet extrait du film Ulysse de Mario Camerini, qui reprend très fidèlement le texte de l'Odyssée.
Agamemnon, Ajax, Achille, tous mes compagnons morts. Achille, dont le visage était sombre et triste.
Mais quel autre visage peut avoir celui qui attend la mort ?
Tu devais l'attendre avec courage. Achille ne peut être que comblé d'honneur, comme un prince, comme un héros.
Épargne-moi au moins des consolations, Ulysse. Je préférerais être un esclave éloigné de sa patrie, plutôt que d'être un héros au royaume des ombres.
C'est un chant grec de la divine, sur la divine Sélénée, par le Daemonia Nymph. Vous le rappelez, vous assistez, il y a tout un chapitre, Alexandre Farnoux, dans votre livre, sur l'importance du chant, puisque vous le dites, ce sont des poèmes chantés, ce sont d'ailleurs des chants, hein, c'est divisé en chants, l'Iliade et l'Odyssée.
Oui, alors la division en chants est intervenue tardivement, au moment du passage par écrit, puis surtout probablement au moment du travail des bibliothécaires et des spécialistes de la bibliothèque d'Alexandrie, qui ont voulu mettre un peu d'ordre dans la matière en la répartissant et en la divisant. Mais la vocation musicale de la poésie est très sensible, puisque c'est un hexamètre dactylique, c'est un maître de la poésie grecque dédié à l'épopée, qui contient un certain rythme, avec un certain jeu de sonorité et de récit, de composition, de principe de composition qui est caractéristique et qui a été à la fois récité et très souvent accompagné d'un instrument de musique, hein, la cithare le plus souvent.
Comme on le fait dans les Balkans aujourd'hui, dites-vous.
Oui,
qu'il y a toute une enquête qui a été faite pour retrouver à peu près la manière dont on pouvait chanter à l'époque d'Ulysse, et on la retrouve dans les Balkans.
Oui, alors c'est une enquête qui a été menée dans l'entre-deux-guerres pour essayer d'expliquer justement toutes ces énigmes sur le poète lui-même. Et c'était tout à fait frappant de voir un tel auteur aussi peu connu. Et une des hypothèses qui a été faite, c'est que cet auteur en réalité serait attaché à une œuvre anonyme au départ, et cet anonymat serait lié au caractère oral de l'œuvre. Et pour le montrer, un Américain qui s'appelle Menman Parry et avec son assistant Albert Lord sont allés en Europe centrale en 1935 pour enregistrer des aèdes et des poètes serbes et monténégrins qui pratiquaient encore la poésie orale sans aucune écriture, en s'accompagnant de la bousla, d'un petit violon.
On a entendu tout à l'heure cette phrase de Ulysse qui rencontre Achille aux enfers, et Achille qui lui dit « Je préfère être un esclave éloigné de ma patrie plutôt qu'un héros au royaume des morts ». Là, la morale est très différente. C'est plus l'héroïsme, le courage, parfois la violence qu'on exalte. C'est au contraire, au fond, la vie d'un homme. C'est d'un homme qui n'a pas envie d'être un héros et qui est Ulysse. C'est le contraire, au fond, presque, de l'Iliade, l'Odyssée.
Oui, tout à fait. Cet aspect est important. L'Odyssée introduit une dimension humaine très, très concrète et très simple qu'il n'y a pas dans l'Iliade. L'Odyssée, de ce point de vue-là, est une œuvre très, très différente. Et les lecteurs postérieurs ne s'y sont pas trompés, et qui ont fait une exégèse chrétienne de l'Odyssée, beaucoup plus que de l'Iliade. On a pu montrer comment on a pu faire une lecture de l'Odyssée comme étant une métaphore de toutes les aventures de l'âme sur terre et de toutes les difficultés de l'âme sur terre en attendant de gagner le paradis et le salut dans les retrouvailles avec Pénélope. Donc cette lecture est possible.
Et une morale qu'on enseigne à tous les Grecs, parce que bien après la mort, la disparition d'Homère, tous les Grecs apprenaient justement l'Iliade et l'Odyssée. Platon disait c'est l'instituteur de la Grèce.
Oui, c'est un aspect qui est très important pour notre compréhension d'Homère et de son œuvre. Ça a été véritablement le manuel de la Grèce ancienne. C'est dans l'Iliade et l'Odyssée que les petits Grecs apprenaient la langue. C'est dans l'Iliade et l'Odyssée qu'ils apprenaient leur vocabulaire. Et c'est dans l'Iliade et l'Odyssée qu'ils apprenaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la théologie et leur histoire nationale. Puisque la guerre de Troie, de manière très assurée pour les Grecs anciens, est un événement de l'histoire de la Grèce en tant que telle. Et par conséquent, c'est le livre de référence de toutes les écoles grecques de l'époque classique, hellénistique et l'époque impériale.
C'est même un mythe fondateur, parce qu'au fond, les Grecs se retrouvent dans cette aventure qui les avait pour la première fois rassemblés contre un ennemi commun.
Oui, ce qui est très fort dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est qu'il y a un double mouvement. C'est à la fois une œuvre commune qui rassemble tous les Grecs, qui, il faut le rappeler, ne constitue pas un État et un seul, mais constitue une myriade d'États. Donc c'est une œuvre commune qui rassemble cette myriade d'États pour une tâche commune, combattre l'ennemi d'Orient. Mais en même temps, ce qui est très fort dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est que ça permet à chacune des communautés de se doter d'un ancêtre prestigieux. C'est-à-dire que l'Iliade joue justement à la fois sur l'œuvre commune et en même temps l'œuvre nationale et particulière à chaque cité.
Mythe fondateur de la Grèce, mythe fondateur de la France. On dit que la royauté française prétendait descendre justement des Troyens.
Oui, il y a tout un effort au début de la fondation des royautés en Europe, en particulier en France, mais aussi en Angleterre, de rattacher les grandes familles royales à des descendants, alors cette fois-ci non pas grecs, mais Troyens, par le biais évidemment d'aînés et de l'Italie. Et il y a tout un discours
des historiens
qui avaient quitté Troie pour s'installer, pour fonder Rome et s'installer. Mmh. Et il y aurait une branche qui serait venue jusqu'en Angleterre et jusqu'en France, dont serait issue la famille royale en France.
Même les Perses revendiquaient au fond la paternité. Alors cette fois-ci, Mehmet II, le sultan qui avait pris Constantinople, était allé, après avoir pris Constantinople, à Troie, en disant qu'il avait ainsi vengé les Perses, affirmant donc que finalement les Troyens, c'était les ancêtres des Perses. En fait, tout le monde s'empare de l'œuvre justement de Homère, des écrivains comme Ronsard, Fénelon, Dante aussi, qui fait apparaître Ulysse dans les enfers de sa Divine Comédie. C'est d'ailleurs en lisant Dante ou l'Iliade dans l'enfer d'Auschwitz que Primo Levi avait rendu l'espoir à un de ses compagnons de déportation. On écoute Pierre Vidal-Naquet au micro de 2000 ans d'histoire en 2004.
Primo Levi raconte comment il a essayé d'enseigner à un prisonnier, un déporté français, le chant d'Ulysse dans la Divine Comédie. C'est le moment où Dante rencontre Ulysse aux enfers et qu'Ulysse lui raconte comment, en cherchant, n'allant toujours naviguer, il a sombré et les flots se refermèrent sur lui. Et c'est ça que raconte Primo Levi.
C'est-à-dire Auschwitz, au fond, l'enfer moderne.
Oui, il était dans l'enfer moderne et il a évoqué cette, en aide de l'enfer, la fin, la mort d'Ulysse. Mmh. C'est une des scènes les plus évocatrices. dans l'œuvre de ce grand écrivain.
Et ça prouve finalement qu'on n'a peut-être pas, puisque le XXe siècle était celui d'Auschwitz, on n'a peut-être pas suffisamment lu ou interprété ou su interpréter l'œuvre d'Homère, Pierre Vidal-Naquet.
Oh, ça, il est sûr que dans Homère, on ne torture pas, on tue. On ne torture pas et on ne gaspille pas.
Et c'était Pierre Vidal-Naquet à notre micro en 2004. Pierre Vidal-Naquet, 2 ans avant sa disparition, évoquant l'actualité de l'œuvre d'Homère. Et c'est vrai que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette œuvre, c'est que c'est une des toutes premières œuvres de l'histoire de la littérature, même sinon la première littérature occidentale. Et pourtant, aujourd'hui, et depuis longtemps, elle continue de passionner. Elle passionne le Moyen-Âge, c'est passionné pour Homère.
Oui, le philomérisme ou l'homérophilie, pour employer un terme que les anciens eux-mêmes avaient inventé, c'est un phénomène constant, c'est d'ailleurs le phénomène marquant et c'est probablement le vrai phénomène qui peut porter le nom d'Homère, hein, que cette référence constante à Homère à travers les siècles et surtout cette utilisation systématique dans la littérature et les arts, mais aussi en politique. On a de nombreux exemples de chefs d'État qui s'inspirent d'Homère depuis Alexandre le Grand jusqu'à Napoléon Bonaparte, de nombreux événements qui sont interprétés à la lueur d'Homère, hein, la guerre de 14-18, et un certain nombre de fantassins l'ont fait avec l'IA dans leur sac, l'armée d'Orient aussi, qui renoue avec la guerre contre l'Orient, sont à chaque fois interprétés avec Homère en toile de fond. C'est une chose très frappante.
Il y a cette belle citation de Montaigne qui disait que Homère était maître très parfait en la connaissance de toutes choses. Elle ressemble d'ailleurs à cette citation qu'on a pu entendre au début de l'émission de René Char qui disait « Homère a œuvré sans rature, nous donnant à voir l'entier pays des hommes et des dieux ». Comme si, au fond, il décrivait, je crois que c'est peut-être ça qui fait son succès encore aujourd'hui, y compris au cinéma, on a entendu quelques extraits de films, qui fait le succès encore de l'œuvre d'Homère. Au fond, c'est la description de toutes les passions des hommes telles qu'elles n'ont pas évolué, elles, depuis des siècles.
Oui, il y a cet aspect-là, en particulier dans l'Iliade, bien sûr, mais aussi dans l'Odyssée, autour du personnage d'Ulysse, qui a pu être réinvesti au XXe siècle comme un héros solitaire et aventureux, menant contre vents et marées sa barque et étant lui-même une conscience de ses aventures et une conscience dans le monde. Il y a cette richesse de l'œuvre qui a été exploitée tout au long. Et ce qui est frappant, c'est que cette exploitation se fait à la fois dans le domaine de la littérature, mais aussi dans les arts. L'illustration de l'Iliade et l'Odyssée est une des grandes constantes de l'art occidental depuis la Renaissance et c'est tout à fait frappant.
Il y a un extraordinaire tableau d'Ingres que vous montrez dans ce livre qui est tout simplement le Homère déifié où on le voit comme ça au milieu de toute une assemblée d'écrivains, d'hommes politiques, de tous les grands écrivains ou hommes politiques qui ont fait l'histoire et qui se tournent vers Homère presque en le remerciant.
Oui, tout à fait, c'est l'apothéose d'Homère, et je dois dire que c'est probablement ce genre de mise en scène que les anciens pratiquaient aussi, puisqu'on en possède une, hein, qui est un relief qui représente à peu près le même genre de choses. Il existait dans l'Antiquité des sanctuaires en l'honneur d'Homère, c'est un des rares auteurs qui a fait l'objet de temples, et je pense que tout cet aspect-là contribue à faire exister le poète, indépendamment de toutes les incertitudes que nous avons sur la réalité de son existence.
Il y a même une tombe, je crois, d'Homère.
Oui, qui a été découverte dans l'île d'Ios, avec une momie à l'intérieur, qui s'est malheureusement dissipée à la lumière du jour et nous ne connaîtrons pas l'exacte existence de cette momie.
Merci Alexandre Farnoux. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Homère, le prince des poètes » qui vient de paraître chez Gallimard dans l'excellente collection Découverte. À lire aussi le dossier spécial « Le monde d'Ulysse » dans la nouvelle formule de la revue Historia, magnifiquement illustrée également et qu'on peut trouver actuellement en kiosque. Ainsi que « Homère » de Pierre Brunel aux Presses universitaires de France dans la collection « Figures et plumes » et enfin « Le dictionnaire du monde grec antique » dirigé par Maurice Sartre, Annie Sartre-Foria et Patrice Brun chez Larousse. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants « Alexandre le Grand » de Robert Rossen en DVD aux éditions MGM, « Alexandre » d'Oliver Stone édité en DVD chez Pathé, « 3 » de Wolfgang Petersen disponible en DVD aux éditions Warner Home Video et « Ulysse » de Mario Camerini avec Kirk Douglas dans le rôle-titre en DVD aux éditions H2F. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Loïc Frapsos et Pierre-Yves de Rollin. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivar. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une tragédie oubliée, les Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale.